Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez comme tous les samedis Biotine, émission d'actualité scientifique. Pendant une heure, toutes les semaines, ça démarre bien cette émission, toutes les semaines on feuillette un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique pour se tenir informé un petit peu de toutes les avancées, de ce qui se passe dans les laboratoires. La semaine dernière, on a fait une émission sur les prix Nobel et puis habituellement, voilà, vous savez qu'on va un petit peu s'intéresser à différents articles que l'on trouve dans les revues spécialisées ou de vulgarisation scientifique. Eh bien aujourd'hui, on va se faire un petit plaisir, on va retrouver un petit peu les origines de cette émission Biotine qui était au départ de pouvoir interviewer des scientifiques au sens large, donc des personnes qui ont à un moment décidé de s'engager dans la recherche scientifique, de comprendre un petit peu leur parcours, leurs envies, leur quotidien. On va donc aujourd'hui passer cette émission pendant une heure avec Nicolas Rivoallant. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Bah super, et toi ?
Mais très bien, ça me fait plaisir de passer du temps avec toi parce qu'on s'était découvert, on va dire, l'année dernière lors de l'émission de la Fête de la Science. Que l'on avait fait au sein même de l'Université Technologie de Compiègne, où tu nous avais parlé de cette bande dessinée qui était d'une audace et d'un culot pour parler de science, vraiment intéressant, et on évoquera ça dans cette émission. On s'est retrouvé il y a 15 jours parce que, évidemment, tu es un fidèle de cette manifestation de vulgarisation scientifique et on a dû discuter, je pense, 7 minutes et demie à peu près, parce
c'est
que
ça, oui.
En posant un minimum de questions, malheureusement, sur ce que tu proposais pour la Fête de la Science. Et on s'était dit quand même, on va se poser un moment, tranquillement, dans le studio, et discuter avec toi, surtout que tu as un parcours intéressant. Et moi, ce qui, bien sûr, m'intéresse dans ton parcours, c'est vraiment le fait de t'impliquer dans les actions de médiation scientifique. Non seulement tu t'impliques dans des actions de médiation scientifique assez audacieuses, on va dire, parce que les supports sont originaux, et tu as cette passion justement de développer cette envie de s'engager dans la médiation scientifique. Tu as cette passion de convaincre un petit peu, j'allais dire, tes camarades, entre guillemets. C'est-à-dire que je pense qu'il est intéressant pour nos auditeurs de comprendre ton parcours, et c'est intéressant aussi pour nos auditeurs scientifiques, entre guillemets, donc les membres de la communauté scientifique, de se dire « Ah bah tiens, il a raison, lui, de ce qu'il fait, Nicolas. » C'est ça un petit peu l'idée. Moi, quelque part, j'essaie de faire du prosélytisme, tu vois.
Bah, en tout cas, ça me fait plaisir de l'entendre, et c'est avec plaisir d'en parler aussi.
Mais je trouve franchement, et on va le voir pendant cette émission, que on a échangé plusieurs fois, une vision totalement juste de ce que doit être la médiation scientifique, sans mettre de côté, bien sûr, les difficultés qu'on peut y rencontrer. Et donc, effectivement, c'est le but de cette émission, et comme il y a longtemps, voilà, qu'on n'a pas accueilli une personne en chair et en os dans ce studio, dans cette émission Biotine, ça faisait plaisir de pouvoir discuter avec toi. Et l'occasion de la Fête de la Science, il y a 15 jours, nous a permis justement de pouvoir planifier cette émission du 26 octobre. 26 octobre 1671, l'éphéméride nous montre que, à peine installé à l'Observatoire Royal, qui était encore en plein chantier, eh bien Cassini découvre déjà ce qu'on appelle Jappé, ou Jappet, d'ailleurs, j'en sais rien, J-A-P-E-T, je ne sais pas, on va dire Jappé, ce sera peut-être un petit peu plus français. Ouais. Et c'est le second satellite naturel de la planète Saturne. Quand on parle d'éphéméride, c'était toujours intéressant d'avoir une idée de l'histoire, de la chronologie, une idée du temps, en fait. Parce que on parle du XVIIe siècle et on est déjà sur des découvertes vraiment fondamentales. Et Cassini est quand même un nom qui est encore connu, heureusement, aujourd'hui. Et c'est intéressant de l'évoquer. Parce que, autre élément important du 26 octobre, il y a deux ans, donc 2022, donc là, on fait vraiment un bond en avant. En Espagne, 16 ans après sa mise en chantier, il y a ce qu'on appelle le tram-train, donc cette espèce d'hybride, un petit peu de mobilité douce. C'est le premier tram-train du pays en Espagne qui est mis en service. C'est dans la baie de Cadix. Ça va être sympa d'aller là-bas. J'aimerais juste à la rigueur d'aller à Cadix, c'est rien que pour voir à quoi ressemble ce tram-train.
Ce tram-train,
tu connais peut-être ?
Non, non, du tout, du tout.
Naissance de 26 octobre 1955 de Stephen Kern Robinson, astronaute américain. Il est encore vivant, donc on lui souhaite un bon anniversaire. Il est vétéran de 4 vols de navette qu'il a fait entre les années 97 et 2010. Il a 69 ans, bon anniversaire Stephen, et décès un 26 octobre 1828 d'Albrecht Daniel Taert, qui est considéré comme l'un des fondateurs de l'agronomie. On est dans au 19e siècle. Il découvre l'histoire naturelle et puis fait quand même de nombreux voyages en Angleterre. Il fait surtout des voyages en Écosse, où il commence à s'intéresser aux problèmes d'agriculture. Il va publier à la fin du 18e siècle une introduction à l'agriculture anglaise qui suscite un grand intérêt en Allemagne. C'est toujours aussi, pas toujours de là où on souhaiterait, mais en Allemagne, ils ont été quand même assez intéressés par ce qu'il a fait. À la mort de son père, il décide d'abandonner la médecine. Il se retire dans sa propriété de Serle. Donc on est toujours dans cette Écosse. Et il y fonde le premier observatoire expérimental agricole. Il va en Allemagne et il va créer la première école d'agriculture. Il fait aussi pas mal de publications, de revues consacrées à l'agriculture, à ses problèmes. On est déjà sur quelqu'un qui s'engage aussi dans des aspects de médiation scientifique, Albrecht Taher. Il insiste sur l'importance de la cartographie des sols pour l'agriculture à la fin du 18e siècle. C'est totalement inédit, quelque part, à l'époque. Et il contribue également au développement des cultures de la pomme de terre et de la betterave à sucre en Prusse. Et il participe à l'amélioration génétique des moutons, quand même fascinant, et au développement de plusieurs outils agricoles. C'est un peu à l'époque où on touchait un peu à tout, en fait. C'est un nom qu'on n'a pas nécessairement en France une idée, il n'est pas nécessairement passé à la postérité, Albert Taert, mais en tout cas, c'est toujours à l'occasion de ces éphémérides de s'arrêter sur des parcours assez atypiques de personnes qui ont quand même une avancée. Et là, on est vraiment sur l'agronomie, effectivement, ça peut être intéressant. Là, nous sommes le 26 octobre 2024. Nicolas, tu es doctorant dans quel domaine ?
Je suis doctorant en biomatériaux et en bio-ingénierie. Donc, c'est-à-dire que je travaille d'une part avec des matériaux, mais aussi avec des compétences qui relèvent de l'ingénierie, donc une partie de l'ingénierie mécanique, mais sur des applications qui relèvent d'une part du médical et du vivant, en utilisant aussi du matériel qui est lui aussi vivant, donc typiquement des cellules.
Et tu es doctorant où ?
Je suis doctorant à l'Université de technologie de Compiègne, au laboratoire de biomécanique et de bio-ingénierie, donc toujours ce côté ingénierie mécanique et biologie, mais aussi en co-tutelle avec l'Allemagne, puisqu'on vient d'en parler, à l'Université d'Hanovre, dans l'institut qui travaille sur la fabrication et les process pour la fabrication de biomatériaux dans le cadre de la médecine.
Alors on va voir avec toi tout à l'heure un petit peu ce que consiste le métier d'ailleurs. Est-ce que c'est un métier doctorant ? C'est toute une question, mais en tout cas, déjà, c'est un petit peu intriguant de savoir que tu es affilié à deux instituts différents, entre guillemets, ce qui peut aussi interpeller nos auditeurs en disant qu'il a un pied en Allemagne et un pied en Picardie. Mais avant d'aborder l'aujourd'hui, on va parler peut-être d'hier. Le point de départ, quand on interviewe des membres de la communauté scientifique, quand on se dit mais pourquoi s'engager dans des formations scientifiques, les points de départ sont tous différents. Parce que ça peut être une rencontre, ça peut être un environnement, c'est-à-dire quelqu'un de la famille, ça peut être quelque chose de familial et qui peut être totalement évident pour l'enfant de poursuivre dans ce domaine-là. Ça peut être un événement particulier et précis. Des fois, ça peut être sans raison également, uniquement par une passion qui est venue comme ça au fur et à mesure. Toi, tu as fait un bac scientifique, alors... Déjà, pourquoi au départ ? C'est pas anodin.
Oui, alors c'est déjà un choix, effectivement. Alors pour le coup, on va dire qu'avant ça, en collège et même avant, j'avais toujours eu certaines facilités dans les mathématiques et les sciences très scientifiques, on va dire. Et un peu moins sur les aspects un peu plus littéraires, l'orthographe, la grammaire et ce genre de choses. Du coup, c'est pour ça. Déjà, il y a eu une direction en direction de ces domaines techniques. Mais ensuite, il y a eu un choix, effectivement. Donc là-dessus, je sais que mes parents m'ont beaucoup poussé à faire des études autour de l'ingénierie, parce que déjà, c'était très, très bien vu à ce temps-là, et c'est d'ailleurs très bien vu encore aujourd'hui. Et aussi parce que bah, moi, j'aimais bien cet aspect vraiment technique, vraiment ce côté casse-tête. Et c'est pour ça que j'ai continué dans un bac scientifique. Par contre, pas forcément mécanique, comme on pourrait le croire, dans le sens où la suite de mes études, j'en parlerai, était plutôt mécanique. Un bac dans la science et la vie et de la Terre, avec quand même une spécialité maths. Donc toujours des maths pas très loin, ça c'est sûr. Et j'ai beaucoup aimé typiquement justement tout ce qui était autour de la science, mais aussi autour du vivant. Pour autant, j'ai continué mon parcours dans un IUT en génie mécanique et productique. Donc là, c'est vraiment de la pure mécanique. Hein. On démonte des voitures et on fabrique des robots. Et c'est là où je me suis rendu compte que le côté vivant que j'avais durant mon lycée me manquait un peu. Donc j'ai continué en école d'ingénieur en microtechnique et santé, donc de la mécanique à plus petite échelle et appliquée à la santé. Et c'est en fait à la suite de cette école d'ingénieur que, au travers de différentes expériences, j'avais beaucoup aimé l'effet, enfin le travail de transmission du savoir. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas être enseignant-chercheur, au même titre que quand j'étais ingénieur, j'étais aussi apprenti, donc j'avais un pied dans l'industrie et un pied dans l'école d'ingénieur. Je me suis dit, bah, pourquoi pas avoir un pied dans l'enseignement et dans les laboratoires. Et c'est pour ça que je suis rentré en thèse dans une université avec d'un pied à Compiègne et d'un pied en Allemagne.
Ton parcours tel que tu l'expliques a l'air d'être si évident que si on s'arrête à certaines étapes, ça ne l'est peut-être pas. Quand, si tu te fais un exercice de remémorisation, quand tu es dans ton année du bac, tu voulais faire quoi ? Parce que c'est toujours la question qu'on nous pose quand on est en terminale. Tu voulais faire quoi plus tard ? Et toi, tu voulais faire quoi à ce moment-là précisément ?
À ce moment-là précisément, c'était ingénieur.
Pourquoi ? Ça considérait en quoi ingénieur pour toi à ce moment-là ?
Alors, ingénieur dans ma tête à moi, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais on pourra y revenir, c'était ce côté vraiment très inventeur. Ce côté, vas-y, je prends ma clé à molette et je fabrique des engrenages, je les mets entre eux et ça fait pchit et ça fait pchat. Voilà, c'est comme ça que je voyais les choses. Vraiment ce côté, je fabrique, je conçois, je réalise des choses qui sont très techniques. Le métier d'ingénieur, c'est plus forcément ça aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça l'est pas forcément. C'est-à-dire que un ingénieur, déjà, c'est pas forcément ingénieux, c'est méthodique. C'est-à-dire qu'on nous apprend des méthodes. Et c'est là où après, bah, en ingénieur, on fait beaucoup de la gestion de projet, puisque là, on utilise des outils qui sont tout aussi techniques que fabriquer un engrenage. Mais là, des techniques qui vont être dans la gestion d'un projet qui est composé de beaucoup d'acteurs et de beaucoup de techniques très diverses et variées.
Et ensuite, donc tu as fait, tu passes par un DUT, et donc quelque part, pour ceux qui nous écoutent, un DUT pour eux c'est 3 ans, et après c'est bon, tu travailles. Eh ben non.
Eh ben non. Alors, pourquoi ? Dans mon temps déjà, c'était que 2 ans, c'était vraiment...
C'était que 2 ans.
Oui, c'était un IUT de génie mécanique et productique, du coup, enfin un DUT, maintenant c'est un BUT, un bachelor, dans le sens où ça se cale avec le système de licence, qui est en 3 ans aussi. Effectivement, la plupart du temps, on fait un IUT, enfin un DUT ou un BUT, pour ensuite se diriger directement vers un métier, un salaire, ce genre de choses. Pour ma part, c'est que je savais que je voulais rentrer dans une école d'ingénieur, mais je ne souhaitais pas faire prépa. Parce que je sais que, en tout cas, la prépa telle qu'elle m'était vendue à ce moment-là me faisait très peur. C'était de travailler énormément et... Certes, je peux être très bosseur, mais gratter du papier toute la journée, je ne sais pas. Là, le côté IUT, il y avait cet aspect très concret. C'est-à-dire que pendant ces 2 ans, on a vraiment fabriqué des pièces métalliques de A à Z. On a fabriqué, typiquement avec des copains, un petit robot qui fonctionne qu'avec des pieds, pas avec des roues motorisées. Donc, c'est la compétition robot marcheur. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce côté vraiment concret. Et ça ne m'a pas forcément fermé les portes à l'école d'ingénieur, puisque j'ai pu quand même l'intégrer. Par contre, il fallait quand même être très bien classé, très honnêtement. C'est-à-dire que si on fait un DUT ou un BUT pour une école d'ingénieur, ce n'est pas la voie dite royale. Mais c'est une voie qui est possible.
C'est une voie possible, ce n'est pas la plus évidente, on va dire, mais c'est intéressant de montrer qu'il y a plusieurs voies qui permettent d'intégrer une école d'ingénieur. Tu avais un choix précis d'école d'ingénieur par la suite ?
Alors, à la base, là, c'était, je pense, très sur ce que mes parents souhaitaient m'emmener vers l'école des arts et métiers. Et en fait, c'est en la visitant, en connaissant un peu plus certains aspects, où je me suis dit, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse tant que ça. Enfin, c'est-à-dire que faire des énormes hélices de navires qui vont d'un continent à l'autre, c'est cool. Mais c'est pas ça qui me faisait vibrer, quoi. Et à nouveau, comme mentionné, l'aspect vivant, que j'avais durant mon lycée avec mon bac SVT me manquait un peu. Donc je voulais replacer un peu du vivant dans ce cursus. Et c'est là où j'ai cherché des écoles d'ingénieurs qui proposaient un cursus mêlant mécanique, donc ce que j'avais déjà fait, mais avec un peu du vivant. Et typiquement, dans les deux écoles d'ingénieurs qui m'ont beaucoup intéressé, il y avait d'une part l'UTC et d'autre part, il y avait l'ENS2M, donc l'École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques, qui s'appelle aujourd'hui SUP Microtech, qui est à Besançon, où justement, c'est une école à la base d'ingénierie et pour l'histoire d'horlogerie, mais qui aujourd'hui a placé son aspect de faire des choses petites, beaucoup plus large que juste faire des montres, mais aussi pour des applications santé. Et c'est ça qui m'a intéressé et que j'ai suivi cette école-là en particulier.
Donc précisément, tu as travaillé sur... Enfin, travaillé, c'était... Il y avait déjà des débouchés, quelque part, une voie qui a apparu pour toi à ce moment-là ?
Bah là, je m'attendais vraiment à continuer dans vraiment le métier d'ingénieur, d'autant plus que j'ai fait cette formation par apprentissage. Donc, c'est-à-dire que j'étais 50% du temps en entreprise, 50% à l'école, ouais, avec un salaire, avec des missions au quotidien dans l'entreprise, même si elles étaient parfois entrecoupées des périodes à l'école. Mais disons que le métier m'a plu. Pour autant, il me manquait ce côté transmission, ce côté de vraiment passer du temps à expliquer, à enseigner des choses. Et je me suis dit, pourquoi pas enseigner ? Pourquoi pas faire enseignant ? Et en cherchant justement les métiers de l'enseignement, je ne voulais pas juste faire enseignant, je voulais garder ce côté un peu projet technique. Et c'est là où je me suis dit, le travail d'enseignant-chercheur, on a d'une part les missions d'enseignement auprès des étudiants, mais aussi ce travail très technique qui est autour des projets scientifiques.
C'était quoi cette entreprise ?
Alors, j'étais chez Adex Technologies, donc qui est à Dijon, enfin Chenôve pour être exact. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication d'objets adhésifs, donc qui collent, sachant que ça va de l'automobile, avec typiquement les autocollants, dans quel sens faut mettre le bébé à l'avant de la voiture, ça vient de cette entreprise. En tout cas, c'est produit à cette entreprise. Mais il y a aussi d'autres produits, comme par exemple des pansements. Donc on va vraiment de l'automobile jusqu'au pansement, jusqu'au médical, en passant aussi par des objets un peu plus simples, genre des étiquettes pour des étiquettes de supermarché, enfin voilà quoi, des produits qui collent.
Et donc, comme tu le disais, on est sur du 50-50 en temps passé, entreprise-école. C'est quoi ? C'est tous les mois ? C'est un mois dans l'entreprise, un mois dans l'école ? Parce que chaque école a un petit peu son fonctionnement. Toi, c'était comment ?
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que chaque école a son fonctionnement. Dans mon cas, la première année, on faisait des échanges deux semaines. Donc, ce qui était plutôt bien dans le sens où on ne quitte jamais vraiment l'école et on ne quitte jamais vraiment l'entreprise. Ensuite, en deuxième année, c'était trois semaines. Donc là, c'est un rythme un peu plus compliqué, on va dire, parce qu'on commence à vraiment plonger dans l'école et après on doit retourner dans l'entreprise, ou on commence à plonger dans l'entreprise et il faut retourner dans l'école. Et enfin, la dernière année, là, c'était un mois, voire plus. Et là, en fait, c'est vraiment, il y a des temps focus sur l'école et des temps focus sur l'entreprise pour vraiment faire aboutir des projets assez colossaux.
Et donc, quelque part, il faut coller les projets, le calendrier des projets avec le calendrier de tes études. Ce qui n'est peut-être pas aussi évident que ça. Ou alors, il y a une espèce de souplesse, entre guillemets, de l'entreprise qui t'accueille.
Déjà, l'entreprise est au courant de ce genre de contraintes. Quand elles embauchent un alternant, elles savent que ça va alterner entre l'école et l'entreprise. Donc là-dessus, ils sont courants. On a des projets qui sont assez flexibles. Par contre, avec les responsabilités qui s'accumulent au fur et à mesure de ces trois ans, parce qu'à nouveau, on n'est pas juste un stagiaire qui est à un endroit et qui part dans 6 mois. On est vraiment un élément de l'entreprise pendant 3 ans. Les responsabilités s'accumulent. Et là, parfois, ça peut devenir un peu plus compliqué. Moi, dans mon cas, ça allait. J'avais des projets que je pouvais faire temporiser par rapport au calendrier. Mais je pense, par exemple, à un collègue ou d'autres qui ont dû vraiment s'absenter parfois des cours parce qu'ils avaient un fournisseur qui leur ramenait une machine à 3 milliards et qu'il fallait être là pour la mettre en œuvre, pour signer les papiers, pour négocier avec le fournisseur. Donc là-dessus, ça peut être très prenant, oui.
Ensuite, ton parcours. Donc, vous êtes bien toujours sur l'antenne de Graphite et on accueille Nicolas Rivoallant sur l'antenne justement pour comprendre un petit peu son parcours. Là, si on arrive à suivre ton parcours, on est donc à bac plus 5.
C'est ça.
Donc, on se dit, c'est bon, il va travailler, il va y aller, ça y est.
Oui.
Eh bien, non.
Eh bien, non.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
À nouveau, il me manquait encore cet aspect enseignement. Donc, c'est là où je l'ai cherché. Donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, pourquoi pas faire une thèse, d'autant plus que la plupart des enseignants que j'avais durant mon école d'ingénieur étaient eux-mêmes des chercheurs. Donc c'est aussi eux qui m'ont dit « Ah Nico, t'es plutôt beau dans pas mal de matières, est-ce que ça t'intéresserait de faire une thèse ?» Donc c'est là où j'ai commencé à y réfléchir. et commencer à chercher, parce qu'en fait, c'est à la fin du cursus d'ingénieur que certains sujets de thèse s'ouvrent, donc il faut rester informé. Et en fait, en cherchant les sujets de thèse qui pourraient me convenir, c'est là où déjà j'ai découvert tout ce qui était possible dans la recherche, mais des choses que je n'imaginais même pas, dont typiquement les activités qu'il y avait au laboratoire de biomécanique et de bioingénierie à l'UTC. Donc typiquement, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est cette idée de mêler à la fois un matériau avec des cellules vivantes pour recréer un morceau de tissu biologique qui ressemblerait à celui du corps humain. Et ça m'a vraiment fasciné. J'étais en mode, ouais, mais c'est vraiment possible, c'est pas juste dans le futur ce genre de choses. Donc j'ai enquêté sur les sujets de thèse. J'en ai trouvé deux qui m'ont intéressé pour le coup. J'ai candidaté, mais malheureusement, je n'ai pas été pris. Parce que durant les entretiens, bon, déjà, je suis déjà jusqu'aux entretiens, c'est déjà bien. Ils m'ont dit, en fait, vous êtes un ingénieur en mécanique qui vient de l'industrie. Qu'est-ce que vous voulez faire dans un laboratoire qui est quand même très biologie et qui est dans la recherche publique? Et c'est là où en fait, j'ai dû expliquer que en fait, ce n'est pas parce que j'ai fait de l'industrie que je n'ai pas un attrait pour la science et que je serais bloqué toute ma vie à faire ça. Mais par contre, effectivement, c'était un fait. Il me manquait un bagage en biologie, dans le sens où la dernière biologie que j'avais, elle datait en gros de mon bac, pour faire simple. Et sur les aspects scientifiques aussi, parce que le métier d'ingénieur, encore plus dans l'industrie, n'a rien à voir avec le métier de chercheur dans le public. Donc là-dessus, il me manquait ces deux bagages, en biologie et en recherche, en gros, recherche scientifique. Et c'est là où, en fait, dans ces entretiens, j'ai rencontré ma future directrice de thèse, qui est Cécile Le Gallet, donc je la remercie au passage, qui m'a proposé en fait d'intégrer son master le master dont elle fait partie, de biomécanique et de bioingénierie à l'UTC. Et en fait, durant cette année, du coup, j'ai pris, parce que l'UTC, c'est un parcours à la carte, donc on peut choisir ses cours. J'ai pris les cours, justement, qui étaient axés très recherche scientifique autour de la biologie, sans non plus être complètement largué, pour justement remplir mon bagage. Et pendant cette année, en fait, on a discuté avec Cécile Le Gallet pour créer mon propre sujet de thèse. Et en plus de ça, en partenariat avec l'Allemagne.
Pourquoi l'Allemagne ?
Alors pourquoi l'Allemagne ? Ça, c'est encore une autre histoire. Je vais la faire rapidement. On était vraiment dans ce côté. On a un an pour élaborer complètement un sujet de thèse, ce qui n'est pas courant dans le sens où d'habitude, on postule à un sujet de thèse qui est déjà construit. Là, j'avais la chance de vraiment construire de moi-même. Donc déjà, on l'a axé sur mes compétences, qui n'étaient pas forcément celles habituelles dans le laboratoire. Et d'autre part, je me suis dit, si on a le temps, pourquoi pas proposer une thèse qui soit en lien avec l'international, donc ce qu'on appelle couramment une co-tutelle. Et là, du coup, la direction que j'avais prise à la base était autour de la Norvège et de la Suède, qui sont des pays très connus pour leur enseignement très différent de celui qu'on peut avoir ici. Et puisque à ce moment-là, c'était l'enseignement qui m'intéressait, je me suis dit, pourquoi pas travailler avec eux, comme ça j'aurai ce côté enseignement qu'on n'a pas forcément ici. Ça a glissé sur la Suède parce que mon prédécesseur en termes de sujet de thèse était déjà là-bas. Donc on a négocié avec lui pour essayer de fabriquer cette co-tutelle. Et en fait, au dernier moment, ça ne s'est pas fait pour des raisons techniques, des raisons que le sujet ne matchait pas exactement avec leur direction de recherche. Et en fait, c'est là-dessus, j'étais en mode, on va faire 100% Compiègne, ce sera aussi très bien, pas de souci, j'adore la forêt, c'est très bien. Et en fait, c'est à nouveau Cécile Le Gallet, ma future directrice de thèse, qui m'a dit « Et l'Allemagne, Nicolas, est-ce que ça ne te tenterait pas ?» Et juste sur le coup, j'étais « c'est bien aussi, c'est pas aussi loin, c'est pas aussi dans le Nord, mais ça peut être bien aussi. » La semaine d'après, c'était signé. C'est-à-dire qu'en fait, on a un laboratoire à Hanovre, donc au nord de l'Allemagne, qui fait des sujets très similaires aux nôtres, dont sur le tendon, qui est mon sujet de thèse, on y reviendra, et qui sont un peu plus axés matériaux, mais qui sont très proches des activités qu'on a ici à Compiègne. Et justement, il y a déjà eu beaucoup de collaborations avec ce laboratoire. Donc, créer un sujet en commun, c'était assez facile et assez évident. Et je pense que tout le monde était content pour lancer cette grande aventure franco-allemande.
Et donc, on arrive à la phase de doctorat. On va écouter ça. Juste après un petit titre sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique. On est avec Nicolas Rivoallon. On arrive à la phase doctorat et on va se demander, mais c'est quoi un doctorant? C'est juste après. Tiens, on va écouter Claire Diterzy sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Non, c'est pas du tout celui-là qu'on va écouter. Pardon, on va écouter Les Ogres de Barbac. Ça te déplaît pas?
Ça me va.
C'est gentil. C'est parti. J'espère que ça va être parti. J'en vais y arriver, pardon. Tu vois, Nicolas, ça, c'est les aléas du direct. C'est parti.
Il n'a pas réglé son horloge, toujours le cul entre deux chaises, il ne sait jamais où il loge, il a 30 ans. D'âge mental 16, mon papa, mon père, celui que je n'ai pas beaucoup connu, celui qui est arrivé hier, qui part demain, bien entendu. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard, tu comprendras en attendant. Chante ta colère, il n'a pas choisi sa planète, pas choisi entre terre et lune, il n'a pas remboursé ses dettes et n'a jamais, jamais fait fortune. Mon papa, mon père, celui qu'on voit sur l'avenue, au bras de filles un peu vulgaires qui se promènent à moitié nues. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère, il dit quand je n'ai pas le moral, je vais me soigner dans les bars. Il dit plutôt que dormir mal, moi je préfère me coucher tard. Mon papa, mon père qui s'endort parfois dans la rue, bourré de vin, ivre de bière que les voisins ne saluent plus. Mon père, mon papa qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère, il a tiré les 400 coups, mais il n'a jamais dit je t'aime, il dit on n'est rien, c'est un tout, j'ai pas la tâche, pas le problème. Mon papa, mon père, celui qui tutoie l'inconnu, celui qui mendie son salaire devant les portes du Super U. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère. Il dit je n'ai plus rien à gagner et je n'ai jamais rien eu à perdre. Il dit que je suis mal élevé quand je lui dis que je l'emmerde. Mon papa, mon père, qu'aurait mieux fait s'il avait su de se la faire en solitaire qu'un gosse avec une inconnue. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère, il dit tu seras un fils de paumé, ton héritage c'est ma connerie, et mieux vaut être un vrai raté que de faire semblant d'être réussi. Mon papa, mon père, celui qui cette nuit s'est battu pour un mot de trop dans un verre, pour affirmer son point de vue. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère dans un rare moment de tendresse, il me dit je suis fier de toi. Le jour où la vie me délaisse, tous les paumés se souviendront de moi. Mon papa, mon père, celui qui boit à son insu, qui voit l'avenir dans son verre, une courte vie pleine d'imprévus. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère. Mon papa, mon père, ce zéro extraordinaire, chien de la nuit, chat de gouttière, une crise de rire, une crise de nerfs. Mon père, mon papa, une grande gueule et un bon coup droit, un coup mort, une mauvaise foi, ta place en masse, prépare pour toi. Mon papa, mon père, celui que je n'ai pas beaucoup connu, celui qui est arrivé hier, qui part demain, bien entendu. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant.
C'était le Daron, les ogres de Barbac sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h. Et le mardi matin pour la rediffusion à 10h, vous écoutez Biotine, l'émission de science de Graphite depuis plusieurs années maintenant. Et là aujourd'hui, on se fait une petite émission spéciale, tranquille. On est bien dans ce studio avec Nicolas Rivalon,
on est bien, oui.
Qui voilà, notre invité aujourd'hui, parce que je considère qu'il a un parcours à la fois atypique, intéressant, avec plein de messages qu'on peut faire passer sur cette envie de faire des sciences, de trouver sa place. On se dit quand même, Nicolas, tu as maintenant Bac plus 5 à cette étape-là, tu te lances dans un doctorat, pardon. C'est quoi être doctorant? Ça consiste en quoi?
C'est un métier très compliqué, doctorant, pour le coup. Enfin, dans le sens où ça mélange beaucoup d'aspects. Alors déjà, un doctorant, c'est déjà un étudiant et à la fois un salarié. Donc déjà, c'est une première chose, c'est-à-dire que on va continuer à suivre des cours, mais on va quand même toucher un salaire. Donc c'est quelque chose à savoir. Au même titre que quand on est alternant, on touche un salaire aussi. Par contre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on passe pas notre vie sur les bancs de l'école. Très peu, en fait. C'est-à-dire que on est dans l'université, mais on est dans un autre endroit que les amphithéâtres, qu'on appelle le laboratoire. Et c'est là où, en fait, on va porter, littéralement, un projet de recherche. Et durant ces 3 ans, puisqu'un doctorat, ça dure environ 3 ans, voire un peu plus, ça va être parsemé de quelques formations, comme n'importe quel étudiant. Mais disons que notre cœur de métier ne va pas être d'être... Enfin, notre cœur de quotidien ne va pas être assis dans un amphithéâtre à écouter le prof et à apprendre des choses, mais plus à apprendre comment fonctionne le métier de chercheur et aussi créer la connaissance. Et ça, c'est génial.
Doctorant, une journée d'un doctorant, pardon, c'est... Pour toi, c'est quoi ? On va pas dire que c'est une journée type, que tous les doctorants ont cette journée-là, mais pour toi, précisément, c'est quoi ?
Ouais. Pour moi, alors à nouveau, effectivement, les doctorats sont tous très différents et il y a plein d'aspects, même en termes de domaine, même en termes de rythme et tout ça. Dans mon cas, ça consistait à arriver assez tôt au laboratoire, à lancer la plupart de mes manips, parce que certaines sont assez longues, mais peuvent travailler un peu sans moi, du coup ça tombe bien. Du coup, on les lance le matin. Ensuite, on revient en milieu de matinée, une fois qu'on a à peu près tout lancé, sachant que parfois il peut y avoir des aléas, du coup ça va prendre un peu plus de temps. On revient dans le cœur du laboratoire et à son bureau pour typiquement lire tous ses mails, hein, parce que comme tout responsable et comme tout personne qui travaille au laboratoire et à l'université, on reçoit beaucoup de mails, que ce soit auprès de ses collègues, mais aussi des étudiants, hein, puisqu'on a aussi cette casquette-là. Et du coup, là, réponse à des mails. Aussi, faire des rapports, parce que puisqu'on fait des expériences, il faut aussi ensuite les traiter et en faire des rapports. Donc déjà, la manip, enfin l'expérience en elle-même peut être parfois longue. Le traitement des résultats peut être aussi long, donc ça peut prendre du temps dans la journée. Et aussi, il faut faire le rapport à la fin pour que ce soit noté quelque part, hein, que ce ne soit pas perdu dans l'oubli ou que ce soit que dans mon cerveau à moi, parce qu'il n'est pas encore connecté au Bluetooth pour l'instant. Et puis l'après-midi souvent c'est rebelote expérience dans le sens où on récupère typiquement ce qui a été produit le matin ou ce qui a été lancé le matin, on est sur les expériences, on fait ce qu'on a à faire et après il y a aussi toute la phase à la fin de récolter les résultats et de nettoyer tout ce qu'on a fait durant la journée parce que le travail de doctorant, c'est beaucoup de bricolage hein, dans différents domaines, hein, pas que de la mécanique aussi, il y a du bricolage côté biologie. Et il faut nettoyer tout ça, ça prend du temps. Et tout ça, on peut, comme dit, avoir des formations. Donc souvent, on peut en avoir durant l'après-midi, des formations sur un domaine très particulier, mais aussi des compétences que nous, on veut développer. Donc typiquement, dans mon cas, sur la prise de parole en public, ou encore sur des techniques de médiation scientifique. Donc ça, on pourra en reparler. Et en plus de ça, dans la vie du doctorant, il se passe beaucoup de choses. Il faut aussi penser à valoriser ses travaux de recherche. Donc typiquement, en faire des articles scientifiques. Donc ce qui est un peu, on va dire, la manière dont en recherche, on va accumuler le savoir, c'est via des publications dans des journaux scientifiques, au même titre que dans un magazine de Sciences et Vie Junior, il y a des articles. Et nous, on va faire des articles où on explique quelle était notre question scientifique, quelle méthode on a utilisée pour y répondre et quelle est la réponse au final. Et du coup, c'est en fait cette accumulation d'articles qui crée toute la connaissance qu'on a aujourd'hui en recherche. Alors ça, c'est une première manière de valoriser la recherche. Elle peut aussi être faite auprès de congrès. En fait, c'est un peu qu'une sorte de festival de scientifiques. Bon, on fait tout aussi la fête, mais parfois, il faut savoir aussi être sérieux. Où en fait, on va partager où on en est en termes de nos expériences. C'est-à-dire, dernièrement, on a développé telle technique, on s'est rendu compte de ça. Et ça, en fait, on va le partager. C'est un festival entre scientifiques, donc on va le partager à la communauté scientifique. Donc ça, c'est une autre manière de valoriser. Il y a d'autres manières, mais celles-ci, c'est les deux principales.
On sent, quand tu nous expliques un petit peu ce qu'est la vie d'un doctorant, une espèce d'autonomie, entre guillemets, où on a l'impression que c'est toi qui gères ton planning, tout ça. Tu as quand même un accompagnement, un suivi. Tu parlais de ta directrice de thèse, et je pense que Cécile Le Gallet, on a dû l'avoir au micro de Biotine il y a déjà quelques années. Mais en tout cas, elle est là. Son rôle, c'est quand même de veiller au respect des calendriers, de voir si tu ne te perds pas dans certaines recherches. Je ne sais pas, comment ça fonctionne? À un moment, est-ce qu'il y a des garde-fous, qui n'est pas le meilleur mot, mais en tout cas, un encadrement qui fait que tu ne t'éparpilles pas non plus? C'est le cas de tous les doctorants, en fait.
Ah oui, alors dans tous les doctorants, il y a un ou plusieurs directeurs, directrices de thèse. Et justement, les termes que tu as utilisés, donc directeur et encadrement, je pense que c'est ça qui définit bien justement comment on est géré en tant que doctorant. C'est-à-dire qu'on a un cadre qui est assez large, c'est-à-dire que là-dessus, on a pas mal de liberté. Bon, par contre, il y a quand même des limites à tout, hein, évidemment. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et aussi, il y a une direction qui est donnée. Mais par contre, dans cette direction, c'est celle qui est donnée par le directeur de recherche. Pour autant, la personne qui va vraiment plonger dans cette science qui va être nouvelle ou en tout cas qui va aller au plus loin, enfin celle où on va aller dans des endroits où on ne connaît pas, c'est le doctorant qui va la faire. Donc c'est aussi nous qui allons demander ou en tout cas convaincre parfois nos directeurs directrices aussi de la direction qu'on va prendre par rapport à nos découvertes. Par exemple, ah, je sens qu'il y a un truc à faire avec ça, je pense que là si j'y passe un peu plus de temps, on pourra peut-être trouver quelque chose. Et par contre, c'est là où aussi est la responsabilité du directeur, c'est de parfois dire « Alors oui, là, tu as déjà quand même passé pas mal de temps et tu m'en renégocies encore. Au bout d'un moment, ton doctorat dure 3 ans, il faut que tu le valides. Et ça implique pas mal de choses. Et du coup, bah, parfois, le directeur, il va dire stop à certaines recherches pour se concentrer sur d'autres recherches. Alors, peut-être qu'on aura loupé quelque chose, peut-être pas, ça, on le sait pas. Hein, c'est ça, la recherche, c'est qu'on ne pourra pas tout savoir. Ou en tout cas, on aura toujours des choses à découvrir. » Donc, on a une grande autonomie parce que c'est nous qui choisissons les méthodes ou comment on va gérer notre planning. Là-dessus, on a une grande autonomie, mais on a tout de même un cadre et une direction.
La ligne d'arrivée, pardon, du doctorat, c'est la thèse. Donc, il y a la rédaction et la soutenance. En termes de calendrier, si on commence à travailler là-dessus quand, dès le départ. Au dernier moment, toi, comment tu gères ton... Tu es en quelle année d'ailleurs? Je ne me rappelle plus.
Là, je suis en dernière année. J'ai déposé mon mémoire la semaine dernière.
Donc ça y est, toi, tu es déjà libéré. Alors, quelque part, comment tu as géré ce timing?
Alors, comment j'ai géré? Alors, je sais qu'il y a des encadrements, enfin, il y a des thèses qui sont menées où on va inciter très fortement le doctorant à, en fait, rédiger sa thèse dès le début sur typiquement la partie état de l'art, donc c'est-à-dire expliquer tout ce qui existe déjà et tout ce qui a été fait précédemment pour ensuite expliquer dans quelle direction on va. Dans mon cas, on n'a pas vraiment fait ça. On a fait les choses un peu plus laxistes, on va dire ça comme ça. On a carburé sur la partie technique, test, essai, erreur et tout ça pour en fait finir, OK, ça c'est nouveau, ça n'a jamais été fait et ça marche. Donc on va pousser là-dessus. Ce qui fait que, honnêtement, j'ai très peu rédigé pendant ma thèse et que j'ai dû beaucoup rattraper à la fin pour mon manuscrit thèse. Donc, c'était une période un peu péchue, très honnêtement. En termes de calendrier, de manière un peu générale, la première année, c'est beaucoup du essai-erreur et apprentissage des techniques. Et c'est à la fin de cette première année où on commence à avoir un peu ce filon, se dire « Ah, OK, on va commencer à aller dans cette direction ». La deuxième année, c'est là où on va commencer à vraiment produire des résultats, donc des résultats qui vont pouvoir être publiables, donc c'est-à-dire soit sous des articles scientifiques mentionnés juste avant, ou dans des congrès scientifiques. Et la troisième année, c'est celle où on va vraiment capitaliser, regrouper tout ce qu'on a fait pour créer un ensemble qui soit à peu près cohérent, mis tout ça sous forme d'un gros manuscrit qui fait plusieurs centaines de pages, qu'on appelle le manuscrit de thèse. Et enfin, c'est ce manuscrit qui va être ensuite envoyé à d'autres scientifiques pour être évalué. Donc c'est ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs, où en fait, la recherche qui aura été menée pendant les 3 ans va être évaluée. Et à l'issue de cette première évaluation, il va y avoir une soutenance de thèse, qu'on appelait autrefois une défense de thèse. Maintenant, on est plus sur une soutenance, dans le sens où on est un peu moins sur ce côté « tu vas te faire attaquer ». On est plus dans une optique de « tu vas présenter ce que tu as fait ». Et c'est à la suite de cette soutenance que va y avoir une délibération du jury, où donc le jury qui est composé d'autres scientifiques et qui vont accorder, oui ou non, le titre de docteur.
Pour ceux qui nous écoutent, ils doivent se dire, on comprend que tu as travaillé sur un sujet nouveau dans lequel on n'a pas nécessairement de connaissances, que tu apportes quelque chose en plus. Comment on peut juger, je veux dire, quelque part, comment des gens qui n'ont pas cette connaissance-là, tout comme toi, parce que c'est toi qui l'as découverte, comment ils peuvent juger, entre guillemets, de la pertinence de ton sujet de thèse? Sur quels éléments ils se basent? Je suis en train de remettre en cause toute la légitimité.
Non, t'inquiète,
mais tu vois l'idée, c'est-à-dire que toi, tu apportes un élément supplémentaire au pot commun des connaissances. Mm. Un élément inédit, nouveau.
Oui.
Sur quoi on va pouvoir juger de la pertinence de ton apport?
Alors déjà, il va y avoir tout ce que l'on sait déjà autour, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être parfois similaires, où on va pouvoir à peu près se rattacher. Donc là-dessus, on peut parfois se baser là-dessus. Après, On va voir aussi sur tout ce qui est quels sont les éléments qu'on apporte à cet élément nouveau. Parce que si on apporte juste un objet nouveau sans justifier d'où il vient et d'expliquer de pourquoi c'est génial, bah effectivement, les autres scientifiques peuvent être un peu sceptiques. Pour autant, les autres scientifiques, on prend des personnes qui sont expérimentées, qui ont déjà des habilitations à diriger la recherche, typiquement, donc c'est un autre diplôme. Du coup, ils ont l'habitude aussi, ils ont cette expertise d'avoir vu d'autres thèses, puisqu'ils en ont aussi fait une au passage. Ils ont cette expertise de pouvoir savoir qu'un élément peut avoir du potentiel ou non. Et après aussi, une thèse, même si on apporte une nouvelle brique à la fin, mais qui n'est pas révolutionnaire, parce que par exemple, on peut faire plein de thèses pour se dire qu'au final, ça ne marche pas, mais on a construit cette brique en disant « bon bah ok, n'allez pas dans cette direction, on sait que ça ne marche pas ». Ou en tout cas, ça ne marche pas pour l'instant.
Oui, il faut toujours expliquer quand même aux personnes qui nous écoutent que le fait d'avoir un échec, entre guillemets, est aussi un apport de connaissances.
Exactement.
Il ne faut jamais l'oublier en fait. Cette notion d'échec dans la société telle qu'on la vit, telle qu'on la connaît, est toujours mal perçue. En science, si, c'est parce que quelque part, vous suivez une hypothèse, elle ne fonctionne pas, c'est une information.
Exactement.
On rajoute au pot commun.
Et ça, c'est quelque chose que qui est parfois dur en tant que doctorant, parce que on cherche à avoir des résultats qui soient vraiment positifs, qui soient vraiment constructifs. Parfois, on explique qu'il y a des choses qui ne marchent pas et on est heureux de le partager parce qu'on sait que les autres ne vont pas faire la même erreur ou en tout cas ne vont pas passer 3 ans de leur vie sur cette même problématique.
Le temps passe tellement vite et c'est tellement passionnant de t'écouter. Et on voudrait aborder quand même toutes ces actions de médiation scientifique que tu mets en place. On va écouter un petit titre et puis on va continuer quand même à discuter tranquillement dans ce studio de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission de science de Graphite. On écoute un titre et on retrouve Nicolas Rivoallan juste après.
Saved my life twice today. I was hanging around under an axe. I'm trying to run away. It's not that I don't like you, but I can't say thank you to a man with a bottle. You saved my life twice today. I was hanging around under the sea, and you gave me air to breathe. I'm swimming away. It's not that I don't like you, but I can't say thank you to a girl with a tail. Leave me now, I'm trying to forget that I'm alive and fine. Leave me now, I'm trying to forget that I'm alive and fine. Saved your life twice today. You were climbing a tree without your belt. I'm trying to run away, but you follow me everywhere. I can't stand the noise of your steps in the snow, in the sand.
You Save My Life Twice Today, c'est Meringue, Alcool and Us. C'est un beau programme, moi, qui me convient personnellement. Mmh. Vous écoutez Biotine, l'émission de science sur Graphite. Graphite, c'est le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net sur Internet en direct ou en différé. Hein, parce que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts. Émission un petit peu particulière aujourd'hui parce qu'on prend le temps pendant cette petite heure de discuter avec notre invité Nicolas Rivoallant, qui est donc doctorant en biomatériaux et bio-ingénierie. On a donc parlé de cette un petit peu de tout ton parcours et la spécificité. Et en clair, moi, ce qui m'intéresse dans cette émission, qui a cette ambition de faire de la vulgarisation scientifique, toi, tu t'engages également dans ces actions de médiation scientifique. Pourquoi ? Non, mais pourquoi s'imposer ça, Nicolas ?
Pourquoi ? Oui, parce qu'en tant que doctorant, on a déjà plein de choses à faire. Mais pour autant, déjà, c'est déjà un plaisir de faire de la médiation scientifique. C'est un plaisir d'être là à nouveau. Et puis, il y a plein d'aspects qui me paraissent vraiment importants. Et je ne parle pas juste de moi, hein, je parle vraiment important à titre général dans la recherche, dans la médiation scientifique. Typiquement, là, je l'ai un peu mentionné durant mon parcours, c'est que quand j'ai cherché des sujets de thèse, il y a plein de choses que je ne connaissais pas et que je ne savais même pas que c'était possible. Je pensais que c'était des choses qui étaient vraiment très futuristes. Mon sujet de thèse, consistant à refabriquer un morceau d'organe à partir de cellules souches et de biomatériaux, pour moi, c'était encore dans le futur, dans une dizaine d'années. Et en fait, non, c'est maintenant. Donc typiquement, faire de la médiation scientifique pour déjà expliquer que ça existe, c'est déjà génial. Et ça donne ce côté un peu d'espoir, ça donne cette envie d'en savoir plus. Et justement, ça donne aussi cette envie de s'impliquer dans la science. Et c'est là où justement, moi, j'avais envie de me lancer dans ce doctorat. Un autre aspect qu'on oublie parfois, c'est aussi tout ce qui est, on va dire, recrutement, en tout cas les personnels qui vont travailler avec nous. D'une manière, dans un premier cas, ce qui s'est passé pour moi, c'est en connaissant le sujet que je me suis dit « tiens, j'ai trop envie de faire ça ». Et en fait, dans la médiation que j'ai proposée, il y a aussi des gens qui, en découvrant ce que je faisais, puis d'autres collègues, se sont dit « ah mais c'est génial, j'ai envie de faire ça aussi ». Donc il y a ce côté, on va recruter des futurs talents en faisant cette médiation scientifique. Aussi, alors dans un autre aspect, toujours dans ce côté un peu recrutement ou en tout cas élaboration du projet, en parlant de notre projet, c'est comme ça qu'on arrive à le faire découvrir et qu'on crée des nouvelles collaborations. Donc typiquement, c'est en discutant avec d'autres personnes, avec d'autres scientifiques qui ne sont pas forcément du même domaine, en partageant nos connaissances respectives, qu'on se dit « mais on pourrait faire quelque chose ensemble, on pourrait mettre ensemble nos savoirs respectifs pour créer quelque chose de nouveau ». Et enfin, ça c'est le nerf de la guerre, l'argent. C'est que pour expliquer correctement un sujet scientifique, il faut savoir l'aborder parfois avec des mots un peu plus simples que ceux techniques, pour expliquer ce qu'on fait et donner envie aux personnes de participer, que ce soit par leurs compétences techniques ou par des financements.
Il y a deux actions de médiation scientifique assez particulières, on va dire, dans lesquelles tu t'es... valorisé, je ne trouve pas le mot exact, je voulais dire que tu t'es distingué, c'est ça que je voulais dire. Déjà, le premier prix de ma thèse en 180 secondes à Sorbonne Université. C'est quoi ma thèse en 180 secondes ?
Alors, c'est expliquer sa thèse en 180 secondes, donc c'est-à-dire en 3 minutes. C'est une compétition de doctorants ou de jeunes docteurs qui a lieu chaque année en France, mais aussi dans le monde entier, puisque à la base, c'est un concept anglais qui s'est diffusé partout. Et le concept est très simple, c'est d'expliquer son sujet de thèse en 3 minutes, avec un visuel, mais pas d'animation, pas de PowerPoint long qu'on peut avoir en cours, de la manière la plus simple possible et la plus accessible possible.
Donc moi je dis toujours, c'est expliquer ma thèse à ma grand-mère, c'est un peu ce public entre guillemets qui est visé.
Alors il y a un peu de ça.
Quand je dis mais la grand-mère, je vais plus loin de l'idée, c'est-à-dire que quelque part... Je me rends compte qu'au niveau des doctorants, il y a des moments où ils n'arrivent pas à expliquer leur sujet au sein même de leurs proches, en fait. Et que c'est un très bon exercice pour eux d'essayer de prendre du recul et d'expliquer à sa famille, à ses amis, voilà sur quoi je travaille. Parce qu'ils n'ont jamais le temps, tu parlais de temps tout à l'heure, ils n'ont jamais le temps de faire cet exercice. Et toi, tu as eu le premier prix, c'est-à-dire que tu as trouvé des astuces, entre guillemets, une accroche qui a été totalement efficace, ça a été laquelle ?
Alors moi dans mon cas j'ai utilisé l'image des super-héros pour expliquer une grande partie de mon sujet de thèse, dans le sens où j'ai un procédé de fabrication qui consiste à fabriquer des fils au même titre que Spider-Man, enfin, ça fait vraiment un jet de fils. Donc ça, c'était une première idée pour expliquer, on va dire, ce procédé de fabrication qui est la base de mon sujet de thèse. Et ensuite, j'ai fait couler en fait toute cette thématique très Marvel sur toute l'explication de mon sujet, ce qui fait que les gens ont d'une part été accompagnés par cet univers qu'ils connaissent déjà, mais d'autre part, ils ont fait des liens dans les explications, ce qui leur a amené à comprendre mon sujet de thèse de manière simple et aussi très fun.
Quel malin, t'as trouvé la bonne accroche. Ce qui est un véritable exercice aussi, hein. Pas évident, voilà, de trouver. Peut-être que t'as un sujet qui s'y prête, mais il faut avoir l'idée.
C'est ça, faut avoir l'idée. C'est-à-dire que j'aurais pu l'expliquer avec d'autres aspects, typiquement puisque je fabrique des fils sur lesquels les cellules vont s'accrocher. Ça fait un peu comme un accrobranche pour les cellules, donc j'aurais pu utiliser cet axe-là. Et puis, concernant les sujets de thèse, ils sont tous très divers et variés. Il y en a où les comparaisons, ou en tout cas les thématiques, peuvent être plus faciles à trouver. Pour le coup, je pense avoir un peu de la chance et un peu de l'astuce.
On peut dire à nos auditeurs qu'ils ont la possibilité de voir cette vidéo justement sur... tu l'as mis sur YouTube, sur ton compte, sur ta chaîne YouTube peut-être.
Alors, pour être exact, elle est diffusée sur la chaîne YouTube de Sorbonne Université, puisque j'ai remporté le premier prix de Sorbonne Université. Au passage, premier UTC1 à avoir remporté ce prix et encore plus en première année. Elle est disponible sur YouTube, mais j'ai aussi ma propre chaîne YouTube où vous pouvez aussi trouver d'autres vidéos qui parlent de la thèse et d'autres choses. Donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est gratuit.
Et la deuxième, je veux dire la deuxième mission parmi tant d'autres, c'est là où on s'était rencontrés l'année dernière à la fête de la science, c'était la bande dessinée Science en bulle dans la thématique sport et science l'année dernière. Tu as été lauréat pour une bande dessinée sur un support de médiation scientifique, c'est assez rare, c'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement sur quelque chose qui est courant. Comment tu as abordé ce support-là? Comment on se projette sur un dessin, sur un scénario, sur une écriture spécifique, avec un sujet qui s'y prête pas nécessairement au départ? Comment tu as fait?
Alors, c'est vrai qu'effectivement, le support bande dessinée, il est très différent d'autres supports. Typiquement, j'explique pas ma thèse de la même manière quand je l'écris, quand je la fais à l'oral ou quand je la fais en bande dessinée. Typiquement, dans la bande dessinée, il y a juste une référence à Spider-Man, mais il n'y a pas d'autre explication en lien avec l'univers de Marvel ou des super-héros. Donc, preuve qu'on utilise un autre format. Et ensuite, la bande dessinée, c'est un objet très visuel. Donc, c'est là où, en fait, on a beaucoup basé, justement, par l'explication, par des illustrations. Par des schémas, par des concepts et ce genre de choses. Sur la réalisation, c'est une dessinatrice, une illustratrice, Héloïse Chauchois, qui a pris beaucoup la main sur la scénarisation de la bande dessinée. Nous, en tant que doctorants, donc les 10 lauréats, donc c'est-à-dire les 10 doctorants qui ont participé à cette bande dessinée, on était là pour apporter le bagage scientifique, mais aussi les explications, parce qu'elle est certes illustratrice scientifique, mais ce n'est pas pour autant qu'elle connaît tous nos sujets de thèse, donc il fallait aussi lui expliquer, en lui apportant un maximum de matière sans non plus la perdre, et aussi proposer des manières d'expliquer, en plus d'expliquer nous-mêmes, aussi d'expliquer comment ça peut expliquer tel phénomène, quels moyens on peut expliquer, quel schéma on peut proposer. Et après, ça a été de longues discussions pour dans quel sens on va expliquer le sujet de thèse, dans le sens où chaque doctorant a environ 3 pages, ce qui n'est pas non plus énorme. Du coup, il faut faire des choix. Il faut savoir amener le lecteur d'un point A à point B sans le perdre, en lui expliquant un maximum de choses, le plus simple possible, mais le plus juste possible. Et c'est là où, en fait, c'est un boulot d'équilibriste qui est très compliqué.
Il ne faut jamais oublier que dans la médiation scientifique, ce qui est indispensable, c'est la véracité des propos. Enfin, je veux dire que c'est vraiment... Sinon, on raconte tout et n'importe quoi, et ça, c'est facile en bande dessinée. Là, effectivement, tu dois être sur des propos justes et compris par tous. Est-ce qu'il y a un moment, il y a une difficulté qui est peut-être pas un mot un peu fort, mais qui est que le côté artistique par cette dessinatrice peut parfois te contrarier entre guillemets en disant Ah oui, mais tu sais, il y a toujours le scientifique. Je prends cette caricature, mais pour mieux nous faire comprendre auprès de nos auditeurs, c'est que à un moment, une espèce de dogme qui fait que on ne peut pas se permettre un enrobage un peu artistique, parce que dans ce cas-là, c'est plus de la science, parce que c'est plus sérieux. On a très souvent des échanges avec des membres de la communauté scientifique dans ce sens-là, qui est que, ne serait-ce que pour faire un poster, si on n'a pas mis quatre graphes illisibles, c'est pas un poster de science. Alors que si, la bande dessinée, c'est la même chose. Il y a un moment où il y a quand même le côté artistique. Comment tu te l'es approprié ? Alors je suis persuadé que toi, ça a dû te plaire, mais quand même, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit... on peut influencer ou pas ? Ou est-ce que tu avais même carrément des idées d'illustration, de dessin de... Comment tu as pris en main cette partie-là ?
Oui, parce qu'effectivement, à nouveau, en tant que doctorant et en tant que scientifique de manière large, on a un devoir d'être juste dans nos propos. C'est vraiment très important. Et d'autant plus aujourd'hui, avec tout ce qui a circulé en termes de fake news ou de propos qui ne sont pas tout à fait justes. Donc on a ce devoir qui est très important. Et concernant la bande dessinée, on a pris beaucoup de rigueur sur les termes utilisés typiquement et un peu moins sur la manière dont on explique. C'est-à-dire qu'il y a des représentations qui sont un peu rapides, mais par contre, les propos qui sont utilisés sont extrêmement justes. Et là, on a été très contraignant et très casse-pied. Mais même pour moi-même, dans le sens où j'aurais aimé expliquer les choses un peu plus simplement en disant ben, « c'est pas grave », etc. Comme parfois je peux faire à la Fête de la Science. Mais à la Fête de la Science, on a le temps de discuter avec le public. On a le temps de vraiment construire une explication en partant du très simple pour aller vers du très compliqué. Alors que la bande dessinée, c'est que 3 pages. Et il faut essayer d'être assez constant dans la technique pour pas non plus saouler la personne dès la première ni la deuxième page. Du coup, il y a vraiment ce côté savoir donner du lest au bon moment, mais savoir être juste à certains endroits. Donc nous, typiquement, on a beaucoup axé sur le texte pour être très juste. Et sur l'aspect graphique, c'est là où on allait parfois un peu plus loin, un peu plus libre sur le côté artistique. En rajoutant aussi 2-3 aspects humoristiques pour aussi, on est certes des scientifiques, on est sérieux, mais nous aussi, on aime rigoler.
On arrive déjà à la fin de l'émission, oui, ça passe très très vite. J'allais me dire, tu vas donc faire ta soutenance de thèse en novembre, donc dans quelques jours, hein, tu vas te préparer, c'est très bien. Et après ?
Et après, moi, mon but, c'est pas forcément de continuer dans la science, même si, enfin, en tout cas, pas en tant que chercheur, dans le sens où c'est un très beau métier, mais justement, cet aspect un peu artistique où... Ces aspects, vraiment prendre le temps avec le public, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien y passer plus de temps, d'autant plus que je pense que c'est nécessaire dans l'époque où on vit. Du coup, j'aimerais continuer dans la médiation scientifique. Donc, la médiation scientifique, c'est un autre champ de métier au même titre qu'ingénieur ou chercheur. Et là, c'est le métier de médiateur, c'est de faire le lien entre chercheurs, grand public et d'autres institutions pour expliquer la science le plus simplement et de manière de plus agréable possible.
T'as quelques pistes déjà ?
J'ai quelques pistes, effectivement. Alors, j'ai pas encore de lieu défini. Il y a eu des choses qui se sont discutées avec certains instituts. Moi, ce que je cherche, c'est avoir une grande liberté dans la création, justement, de ces objets de médiation. Donc, par exemple, la création de maquettes très concrètes, comme on a pu avoir sur C'est pas sorcier à l'époque. Ou sinon la création de vidéos, puisque à nouveau j'ai une chaîne YouTube, donc c'est aussi parce que j'ai des compétences dans la vidéo, aussi dans le dessin. Du coup j'aimerais un endroit, un métier où je peux avoir une certaine liberté dans la création, mais aussi un certain contact avec le public. C'est-à-dire que je ne vois pas forcément que illustrateur ou que vulgarisateur sur YouTube. J'aime le contact avec le public, j'apprécie rencontrer des gens, j'adore voir les gens avec leurs yeux émerveillés et pleins de curiosité. Du coup, ça serait plus sur un métier où il y aurait d'une part la création d'événements comme Pint of Science que j'ai pu organiser il y a 2 ans ou encore la Fête de la Science, mais avec aussi la création d'objets de médiation comme la bande dessinée, les vidéos ou encore des maquettes à la C'est pas sorcier.
J'ose espérer que les futurs recruteurs qui ont écouté cette émission ont compris qu'il y avait une créativité chez toi qu'il fallait explorer. Donc je pense qu'à mon avis, ils ont dû bien comprendre et que tu avais cette vraie volonté de partage direct avec le public. Il y a peut-être une frustration avec la bande dessinée, c'est que le partage direct, tu ne l'as pas. C'est-à-dire que sur l'instant, tu ne sais pas comment ça a été perçu, aussi, oui. compris. C'est une frustration peut-être quelque part.
C'est une frustration, mais c'est aussi une surprise. Parce que justement, quand on rencontre ces personnes-là qui ont vu la BD ou même des mois plus tard qui sont en mode « Oh, je vous ai vu dans la BD, c'était génial !» C'est un plaisir qui est incroyable. Et puis quand il y a des personnes à l'inverse qui sont en mode « Ça, j'ai pas compris, j'ai pas trouvé que c'était si bien que ça », bah c'est l'occasion d'en discuter, en fait. Donc, que ce soit positif ou négatif en termes de réception, même si la réception a été plus que très positive, elle est toujours intéressante. Donc, c'est là où, même s'il n'y a pas l'aspect direct, l'indirect, toujours ce contact avec le public, est toujours très intéressant.
Je suis persuadé qu'on va reparler de toi rapidement dans cette émission, je pense, parce qu'on suivra ton parcours, bien sûr. C'était Nicolas Rivoallant qui était notre invité pendant cette petite heure dans l'émission Biotine. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Ça passe tellement vite, mais on a passé une heure vraiment intéressante.
Merci, oui, et vraiment Nicolas. Très agréable. C'était vraiment un plaisir.
Merci vraiment, Nicolas. C'était agréable pour moi également, et je l'espère pour nos auditeurs, que je retrouve samedi prochain à 12h pour une nouvelle émission de Biotine sur Graphite. On reprendra, je dirais, un fil normal et habituel qui est bien sûr la revue de presse de l'actualité scientifique. Et Dieu sait qu'il y a pas mal d'informations scientifiques à évoquer là encore. Merci Nicolas et je pense à très bientôt.
À bientôt, oui.
Bonne journée à tous. Merci à vous. Tout de suite et bien la suite de vos programmes sur l'antenne de Graphite.